Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Pousse des cris de joie, peuple de Dieu, car voici ton roi qui vient à toi. Il est le Sauveur. Il vient pacifique. Il ne vient pas sur un cheval de guerre, mais sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il détruira les armes de la haine. Il annoncera la paix aux nations. Il rayonnera jusqu'aux extrémités de la terre. Portes, élevez vos linteaux. Ouvrez-vous, portes éternelles, et laissez entrer le roi de gloire. Par lui sont données à chacune et à chacun partout, en abondance, la grâce, la miséricorde et la paix. Alors je vous propose de chanter à la gloire de Dieu le psaume 95 dans le psautier français, 95b. Réjouissons-nous au Seigneur, les trois strophes de ce psaume de louange. Vous pouvez prendre place pour entendre ce que Jésus nous propose de vivre selon le témoignage des évangiles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Nous disons à Dieu notre repentance avec ces mots de Grégoire de Nazianze. J'ai été bien déçu, ô Dieu de Jésus-Christ, par moi-même. Je suis tombé bien bas. Relève-moi, j'ai conscience de m'être trompé moi-même. Si tu me reçois, c'est bien, sinon je meurs. Aurais-je, moi seul, lassé ta bonté éternelle ? Éclaire mon esprit. Dissipe l'erreur, Car en toi, Dieu de Jésus-Christ, j'ai plus confiance qu'en la victoire de mes propres forces. Mais que chacune et chacun reçoive directement de la part de Dieu au plus profond de leur être la certitude de son amour et la grâce d'une vie ressuscitée. Lève-toi et va, nous dit Jésus-Christ. Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Je vous propose de vous unir par la foi à cette déclaration de croyance. Je crois en Dieu le Père, puissant Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est tendresse et fidélité. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la fidélité incarnée et la vie. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, le corps du Christ. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie qui dure éternellement, dans la liberté et dans la joie. Seigneur, augmente jour après jour la confiance que nous avons en toi. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Alors vous pouvez prendre place pour entendre la parole de la Bible. Alors nous sommes le dimanche des Rameaux, donc une semaine avant le dimanche de Pâques. Et donc pour cela, je vous propose dans l'Évangile selon Luc de suivre cette histoire. Mais d'abord, au chapitre 13, un passage où Jésus annonce finalement sa montée à Jérusalem. Luc 13, à partir du verset 34. « Jérusalem, Jérusalem, dit Jésus, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et donc ensuite, le récit des rameaux, donc au chapitre 19 de l'Évangile selon Luc, à partir du verset 35. Ils amenèrent à Jésus l'anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà vers la descente du mont des Oliviers lorsque tous les disciples, en foule, saisis de joie, se mirent à célébrer Dieu à haute voix pour tous les puissants actes de puissance qu'ils avaient vus. Et ils disaient « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Ah, si tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qui approche la paix. Mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront, te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser les marchands en leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient pas comment faire, car tout le peuple était suspendu à ses lèvres. Et donc je vous propose de chanter dans le petit recueil « Louanges et prières » le cantique 289 « Bienheureux qui t'aime », les trois premières strophes de ce cantique, donc 289. Avec Marie, la mère de Jésus, nous prions Dieu pour la conversion du monde et notre propre conversion. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui l'honorent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde comme il l'avait promis à nos pères, à Abraham et à sa descendance pour toujours. Dans cette page de l'Évangile des Rameaux, nous voyons Jésus changer de niveau d'action. Avant, il se contentait de former quelques disciples et puis d'agir au gré de l'occasion qui se présente. À l'occasion d'une rencontre, il voyait une chose, il est interrogé par quelqu'un et donc il apporte une réponse qui se transforme en prédication ou qui se transforme en un geste ou une parabole. Mais après quelques années, ça n'avance plus tellement. Il y a peut-être seulement 70 disciples, c'est ce que l'on voit dans l'Évangile selon Luc, un peu plus haut, 70 disciples en plus des 12 très proches, des 12 apôtres. Le livre des Actes des Apôtres nous parle de 120 disciples de Jésus après sa mort. Alors ses amis pharisiens restent cramponnés à leurs habitudes ancestrales. Il n'est pas reconnu non plus par l'institution. Elle aime rarement ceux qui sortent du lot. Ces chefs y voient comme une menace à leur petite parcelle de pouvoir. Alors que faire ? Jésus décide de changer de braquet. Il risque le tout pour le tout, et il aura effectivement le tout pour le tout. Fini l'action modeste, artisanale, familiale. Il analyse la situation. Une belle occasion se présente avec le pèlerinage de nombreux pèlerins à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et donc ça rassemble des croyants engagés venant des quatre coins de l'Empire. Ils ont soif de Dieu puisqu'ils viennent. Et puis comme nous ce matin, ils ont fait du voyage pour venir. Peut-être sont-ils prêts aussi à cheminer finalement dans leur manière de vivre, d'espérer, de penser, de s'engager. Et Jésus lance l'opération Rameau. Ben, en fait, ce sera un échec. Et on voit Jésus en pleurer. Encore une fois, ses disciples comprennent de travers, encore une fois, les pharisiens rejettent sa façon de voir, et les autorités ne se sont même pas déplacées. Jésus est seul, tout seul. Et ce n'est même pas sur lui-même qu'il pleure, mais c'est sur ce monde qu'il n'arrive pas à toucher, sur cette carapace qui blinde l'humanité, qui l'enserre, qui l'étouffe et qui fait passer les gens à côté de la vie. Mais au lieu d'en vouloir à tout le monde, au lieu d'abandonner son projet, Jésus pleure sur la ville et ce qu'il exprime semble ne laisser aucun espoir. « Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est bien tard, c'est trop tard peut-être. » Mais déjà le mot suivant de Jésus montre qu'il poursuit. Il entre au cœur de la ville dans le temple. Alors d'où lui est venue cette force pour rebondir, pour tenter un autre geste, pour inventer une nouvelle façon de les toucher au cœur, pour leur faire connaître la paix. Dans cette façon de faire que Jésus montre ici, nous avons un exemple de vie, pour notre propre vie bien entendu, mais c'est aussi un exemple pour notre Église. Pensons aux gens. Soyons inventifs pour créer de nouveaux projets, sans cesse de nouveaux projets, pour essayer de porter la paix dans le monde. Et finalement, ce n'est pas si grave si parfois nous connaissons l'échec, les gens sont comme ils sont. Et ça ne sert à rien de leur en vouloir, il n'y en a pas d'autres que ces gens-là. Alors Jésus s'adapte parfois dans l'humilité en se laissant surprendre par une personne, parfois dans le courage de se lever seul, dans toute sa singularité pour poser un geste fort, peut-être trop fort, peut-être inutile, mais on essaye. Alors ce n'est pas facile, mais c'est comme ça, quand on a conscience d'avoir une vocation, ce qui est le cas en fait de chacune et chacun d'entre nous. Il nous faut en même temps avoir la juste conscience de notre propre valeur afin de pouvoir la mobiliser au service des autres, et puis en même temps avoir l'humilité devant cette vocation qui vient de Dieu et qui nous dépasse et pour laquelle nous ne sommes pas tout à fait capables. Avoir la force et l'audace d'inventer des gestes nouveaux et l'humilité devant les échecs pour modifier encore une fois notre plan de route. Mais tout dans cette histoire des rameaux nous dit que Jésus n'est pas seul en fait. Il ne vient pas seulement au nom du Seigneur, comme le pensent les disciples, mais il est visité par le Seigneur, de sorte qu'il est plusieurs fois ressuscité dans le cours de ce récit pour se relever et repartir autrement, se convertir finalement. Et voyant Jésus pleurer sur la ville, pleurer sur son propre échec, j'ai envie de dire de lui, dire qu'il n'est pas si seul en fait, et qu'il n'a pas échoué, pas encore plutôt. Même si nous pourrions être plus nombreux dans notre Église, dans l'Église en général, dans l'Église du monde, même si nous pourrions être plus enthousiastes, plus responsables, certes, eh bien nous sommes quand même là ce matin, nous sommes sortis de notre lit, nous nous sommes déplacés ici et partout dans le monde. Des centaines et des centaines de millions de personnes comme nous pour ce dimanche des rameaux. Tout n'est donc pas raté, tout n'est donc pas perdu dans cet effort désespéré du Christ pour dire quelque chose et sauver le monde. Mais en même temps, tout reste encore à faire, bien sûr, à notre génération et à chaque génération, et même chaque jour, comme le dit Jésus. Si seulement, nous dit-il, toi aussi, en ce jour-ci, tu connaissais ce qui rend la paix toute proche, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il nous reste encore donc à saisir sa prédication et qu'elle nous change en fait, qu'elle nous donne envie de nous bouger pour changer le monde et bâtir la paix comme lui. Alors nous avons été visités, nous dit Jésus, et cela devrait tout changer pour nous et de là tout changer pour le monde. Alors quand Jésus pleure sur la ville, là, au milieu de ce récit des rameaux, ce n'est pas la première fois plutôt, puisque je vous ai lu le texte un peu plus tôt, déjà il pleurait sur la ville. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Jésus se compare à une poule qui veut rassembler ses poussins sur ses ailes sans en oublier un seul. C'est trop mignon. J'aurais jamais osé cette image. Vous n'avez pas voulu, dit Jésus, ben ce serait le pire du pire. Au rameau, on voit qu'il tempère. Il nous comprend mieux peut-être. Et il nous dit, tu n'as pas connu en fait. Tu n'as pas connu que tu as été visité par Dieu. Finalement, c'est ça le problème, parce que d'expérience, Jésus sait que quand on a connu Dieu, on est comme un poussin qui a reconnu sa maman poule et on ne peut pas faire autre chose que de vouloir se précipiter sous ses ailes, en fait, naturellement, et entrer ainsi dans cette paix. C'est pourquoi nous sommes, nous dit-il, nous et notre monde, dans cette angoisse, dans cet enfermement qu'il connaît précisément lui aussi à ce moment de détresse. Viendra sur toi les jours où tes ennemis t'encercleront, te prendront à la gorge, te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été vraiment visité. » Mais alors, à cet instant, Jésus se sent visiblement visité. Il prend conscience qu'il n'est pas abandonné, il est visité. Et alors que le souffle de sa dernière lamentation désespérée prend fin sur ses lèvres, il se relève de l'échec et repart une nouvelle fois pour aller les visiter et puis aller au cœur de la ville, tenter de faire que les gens s'approchent de la paix qui est donnée. Jésus change donc ici, dans ce court récit des évangiles, à deux reprises pour tenter de faire connaître ce qu'il vit et ce qui le fait vivre. La première fois, il avait constaté que l'action modeste, artisanale, familiale ne suffisait pas, et avec l'aide de ses disciples, il a alors mis en scène une véritable prédication théâtrale où résonnent de grands textes bibliques de l'histoire du peuple hébreu. Un homme montant à Jérusalem sur un âne acclamé par une foule, ça rappelle Salomon venant à l'appel de David, son père, pour que le prophète Nathan lui donne l'onction royale au nez et à la barbe de Adonia, qui se serait bien vu roi, lui, et qui déjà se préparait à l'être. Des vêtements jetés sous les pas de l'âne, cela rappelle l'épisode de Yéhou au deuxième livre des rois, où Yéhou est fait roi par le prophète Élisée contre le méchant roi en poste et l'horrible Jézabel. Les cris des disciples « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur », ça rappelle le psaume 118 et dans l'approche de Jérusalem, c'est un écho à la prophétie de Zacharie au chapitre 9, annonçant la venue de son roi victorieux des horribles ennemis et établissant la paix pour son peuple et lui donner une formidable abondance de joie pour tout le peuple, décrite en long et en large par Zacharie dans la suite du chapitre. Alors voilà ce que Jésus met en scène avec l'aide de ses disciples. Et maintenant, se dit-il, que celui qui a des yeux pour voir reçoive sa prédication d'une visitation par Dieu. Dans chacun de ces textes évoqués par la mise en scène de Jésus, il y a la surprise d'un changement de roi voulu, envoyé par Dieu. Comme dans le chant de Marie, dans le Magnificat, où elle tisse aussi des versets de la Bible dans ce poème, dans cette méditation sur la puissance de Dieu, pour chanter les retournements, les conversions dont Dieu est à l'œuvre, y compris dans sa vie à elle. Alors chacun des rois que Jésus met en scène avec cette histoire de l'annon, chacun de ces rois porte la paix à son peuple, et c'est pourquoi ils ont reçu en fait l'onction de la part de l'Éternel, faite par un grand prophète. Même si ces rois sont bien loin d'être parfaits, même Salomon, voilà, qui porte en lui-même le nom de la paix, il était parfois un peu limite. Mais comment donc portent-ils la paix, ces hommes qui reçoivent l'onction ? Ils viennent visiter leur peuple, montés sur un âne, donc qui est la monture royale pour tant de paix, donc avec proximité avec les gens, avec compassion, mais à l'extérieur, eh bien, ils font la guerre contre le mal et la méchanceté. Et c'est peut-être pourquoi les disciples de Jésus interprètent tous plus ou moins de travers, finalement, cette prédication de Jésus. Pas facile de changer son point de vue. Les uns espèrent convertir Dieu à faire la paix avec nous, comme si c'était nécessaire après tout ce qu'ils ont vu en Jésus-Christ. Alors ils crient « Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts ». Et donc ils pensent que Dieu a besoin d'être calmé, que la paix se fasse dans le ciel. Voilà la clé. Et donc il descendra ensuite pour établir la paix sur la terre. Alors on voit quelques pages, quelques paragraphes avant l'annonce des rameaux, que les disciples sont ainsi dans l'attente de la venue de Dieu pour tout transformer, qui va descendre pour faire tout ça. Encore aujourd'hui, des chrétiens pensent que la mort du Christ aurait servi à convertir Dieu, à mettre la paix dans le cœur de Dieu, à lui permettre de nous pardonner enfin, et puis un Dieu qu'il faudrait sans cesse convertir par notre inlassable prière, par nos cultes, pour nous le rendre favorable et qu'il règle nos problèmes domestiques. Et puis donc, encore beaucoup attendent la venue du Christ pour établir la paix finale sous nos yeux et que nous puissions ainsi en croisant les bras, regarder la paix tranquillement s'installer. Les disciples de Jésus, en fait, se sont sentis encouragés dans cette théologie-là par les actes puissants qu'a fait Jésus. Mais pauvre Jésus, lui, il croyait par ses actes encouragés, au contraire, chacun à le suivre, à s'engager, pas à l'admirer en spectateur d'un spectacle. Et donc que chacun se sente visité personnellement par Dieu, qu'il reçoive comme une onction d'huile, une onction d'Esprit-Saint pour embaucher chacune et chacun d'entre nous, qu'il puisse faire fructifier ses propres talents, comme chacun de ces hommes évoqués par Jésus dans sa prédication mise en scène, chacun de ces hommes bien peu dignes de devenir roi, mais qui sont choisis par Dieu, reçoivent l'onction d'huile d'un prophète, littéralement sont devenus ainsi un Christ capable de construire la paix pour leur peuple, les personnes qui leur sont confiées, pour qu'ils les aiment et qu'ils fassent ainsi reculer le mal qui arrive aux personnes qui leur sont confiées. Dans la foule qui acclame Jésus, certains se trompent autrement, à l'inverse finalement. Ils espèrent que le Christ va les rassembler pour aller en découdre avec les Romains. Comme cet apôtre de Jésus qui est appelé Simon le Zélote, qui appartenait donc au réseau de résistance contre l'armée d'occupation, et peut-être Judas l'Iscariote, qui peut-être veut dire Judas le Sicaire, en fait, donc l'assassin pour lutter pour la paix en Israël. Alors c'est vrai que ces rois à qui Jésus fait allusion dans sa mise en scène ne sont pas que des gentils rois qui se promènent au pas de la mule en bénissant leur peuple d'un geste doux, de la main. Mais ce sont aussi des chefs de guerre qui vont à l'extérieur contre les méchants. Et donc ces disciples-là vont être déçus par Jésus, car l'action violente n'est pas tellement son style en fait. Ils espéraient finalement pouvoir crier « Dieu est avec nous !» et puis aller découdre les Romains. Mais en fait, c'est pas Dieu avec nous que Jésus propose, c'est plutôt nous avec Dieu, toi avec Dieu. Ce qui est presque la même chose que nous avec Dieu, mais c'est pourtant exactement l'inverse en fait. Et donc ce que propose Jésus dans cette histoire, ce n'est ni être dans les seuls Alléluia et tout attendre de Dieu, ni agir comme un sanglier furieux en prétendant faire au nom de Dieu la guerre pour les autres, tuant les autres. Ce n'est pas non plus s'incruster dans une tradition comme les pharisiens. Ce n'est pas non plus confondre Dieu et son institution comme le Sanhédrin. Alors Jésus pleure. « Ah, si tu connaissais toi aussi en ce jour que la paix est à la portée de ta main, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi les jours où tes ennemis te rempliront d'angoisse et t'écraseront toi et tes enfants au milieu de toi et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il prescrit dans ces attitudes-là une implosion finalement. Alors Jésus se lève et entre au cœur du cœur de Jérusalem pour y établir la paix, la prière à Dieu. Et y chasser tout ce qu'il y a comme appât du gain en nous, pour se laisser enfin visiter par Dieu. Jésus enseigne ensuite dans le temple tous les jours, pourtant le texte ne nous dit rien de cet enseignement. Eh bien, c'est qu'il est à écouter chacun dans sa prière, en fait, chacun dans le temple de son propre corps, chacun dans le temple qu'est ce corps, qu'est le rassemblement de quelques personnes assemblées en son nom, en paix, dans l'écoute du seul et du même Dieu. Et se laisser ainsi visiter par lui personnellement, se laisser oindre d'huile, se laisser devenir responsable d'une mission, conscient de ses propres talents, qu'il faut faire fructifier pour aller visiter d'autres. Et c'est là que Jésus puise cette force de bâtir des projets nouveaux et d'avoir la force de rebondir en allant personnellement au cœur du cœur, dans la prière, visiter les autres. Voilà ce qui bâtit la paix. Pas seulement la paix au sens du grec classique d'absence de guerre, mais la paix bien plus large au sens de l'hébreu. La construction d'une façon d'être élevée, aboutie. En réunissant ses forces et ses talents, en s'assemblant avec d'autres pour former un bel ensemble, une maison de prière à tous, un oratoire dont nous sommes les pierres vivantes, exactement à l'inverse de cette implosion qu'évoque Jésus dans cette destruction de la ville barricadée, étroissée, étranglée, dont il ne restera bientôt pas pierre sur pierre parce que toi, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Mais maintenant que Jésus est arrivé à montrer où doit se situer finalement le premier geste de l'effort de transformation du monde, en remettant la prière au cœur de la vie, au cœur de la ville, au cœur du monde, tout le peuple était suspendu à ses lèvres pour le salut du monde et le nôtre aussi en passant. Et puis ce salut passe par nous. Amen. Et donc je vous propose de chanter dans le psautier français, le numéro 116b, « J'aime mon Dieu car il entend ma voix », les strophes 1, 4 et 7. pouvez prendre place pour quelques annonces. Alors après ce culte, il y aura donc les assemblées générales donc de l'église, de l'oratoire et de l'entraide de l'oratoire. Juste le temps vient d'installer un peu les tables et puis de se rassembler. Sinon, nous essayons de faire un groupe de travail sur la nouvelle déclaration de foi proposée donc par l'Église protestante unie. Donc la proposition de l'Église est marquée dans la feuille rose, la dernière feuille rose qui est sur la table. Vous la trouverez à la sortie si vous ne l'avez pas eue. Donc il faudrait constituer un groupe de réflexion d'une dizaine de personnes pour 3 ou 4 réunions maximum qui se réuniront donc en début avril et jusqu'à mai avec quelques conseillers presbytéraux puis quelques volontaires parmi vous pour travailler sur ce texte que nous proposerons donc pour les synodes régionaux nationaux. Deuxième appel pour volontaires, nous cherchons quelqu'un pour assurer la garderie pendant le culte de Pâques dimanche prochain. Effectivement, ce n'est pas très facile parce qu'il y a des gens qui vont fêter Pâques dans leur famille, à l'autre bout de la France peut-être, je ne sais pas. Donc, nous cherchons des volontaires pour le culte de Pâques, mais aussi peut-être pour d'autres dimanches, même si c'est une fois dans l'année. On peut voir Dorothée Gruel ou alors s'adresser à chacun des conseillers presbytéraux qui prendront note. Demain soir, grec biblique des progressants. Mardi soir, grec biblique pour les débutants, plus les débutants. Mardi soir aussi, à 20h, initiation à la théologie. Un cycle de 6 rencontres. Il y aura le 3e tome mardi, mais on peut toujours intégrer le cycle au milieu et puis rattraper la prochaine fois. Jeudi, il y a le culte du Jeudi Saint, donc à 19h au foyer de l'âme, c'est à la Bastille, 7 bis rue du Pasteur Wagner. Avec la scène, bien entendu, ouverte à chacun. Le Vendredi Saint, ici même à 19h, il y aura le culte autour de la lecture donc de l'Évangile de la Passion. Et puis samedi, à 18h, il y a Chantons Pâques, c'est-à-dire que nous chantons les principaux chants de la Passion et de la Résurrection. Et puis il y a un petit temps de méditation au milieu aussi. Et puis dimanche prochain, il y a le culte de Pâques, où tout le monde est invité à participer à la scène. Et puis donc, sinon, il y a aussi une invitation à venir chanter avec le chœur samedi à 16h pour préparer le culte de Pâques du lendemain. Donc voilà quelques annonces. Les restes sont dans la feuille rose que vous pouvez prendre ou sur le site internet. Maintenant, c'est le moment de l'offrande, donc nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. Nous pouvons par ce geste faire preuve de louange et permettre à l'Église de nous aider à annoncer l'Évangile. Nous nous unissons dans la prière. Abba, Père, tu nous as appelés mon enfant. Alors soutiens-nous de ton amour, accorde-nous d'être enflammés de ton esprit, d'être affermis par ta force, d'être illuminés de ta lumière et d'être remplis de ta grâce, de ta paix. Et fais que nous puissions ainsi, grâce à toi, penser en vérité à ceux que tu nous donnes d'aimer et de servir, et qu'ainsi personne ne soit oublié, aucune souffrance, aucune pauvreté, aucune solitude, aucune inquiétude et aucun manque de connaissance de ton évangile de vie. Et puis unis dans une même foi en toi, dans la communion avec tous les chrétiens de toutes les églises, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée et par laquelle nous te disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction de Dieu à travers ces quelques paroles tirées du livre des Nombres. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Oui, grâce te soit rendue, ô Dieu de vie.